Salut les jeunes.
Super les guitares. Putain la rythmique. Le pied dis donc.
Salut les jeunes, on se retrouve donc aujourd'hui 2 novembre avec Gabin. Bonjour Gabin.
Salut Rouliane, j'espère que tu vas bien.
Eh bien écoute, début de mois, moi généralement le novembre j'adore, on se rapproche de Noël. Mais aujourd'hui on va pas parler forcément de ça, mais plutôt d'une petite association, 41 une patate, avec Pierre Godest. Bonjour Pierre, ouais. Comment vas-tu?
Salut les gars, ça va bien. Tranquille.
Ah, bah, on est content de te recevoir parce qu'on voulait parler de l'association dans laquelle tu fais partie,
yeah.
Qui est 41 patates, parce que en première année j'en avais entendu parler un peu, et cette année vous avez fait une distribution de patates gratuitement, c'était sympathique. Et du coup je me suis dit, fallait les inviter ces 41 patates.
Yes, bah, c'est cool. Ouais, on a fait une distribution de patates aux étudiants de l'école du paysage et de l'INSA en fait. Et ça faisait suite à la récolte d'une tonne de patates, une tonne 48 exactement, qu'on a faite. On a récolté ça début septembre en fait. Et c'est un peu l'aboutissement d'un projet qu'on a mené depuis 2018. Ça a commencé avec les gilets jaunes en fait. On s'est demandé dans tout ce contexte de crise un peu comment nous on pouvait agir et porter des valeurs solidaires et liées à l'environnement. De là, on a commencé à se réunir dans les bars tous les jeudis, en fait. On faisait des discussions, on essayait de rencontrer les gens, on se baladait un peu en itinérance dans Blois, et on débattait. Et il est vite arrivé l'objectif un peu farfelu, presque, de produire une tonne de patates de manière assez symbolique. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc on a eu des contacts, on a eu de l'aide de l'association Les Métairies du Pont-Saint-Michel et d'un maraîcher sur Saint-Luban-en-Vergonnois qui s'appelle Alexandre Delacrompe. Et avec lui, on a fait pousser notre tonne de patates. Et puis voilà, on en est arrivé là, la fête de la patate et la distribution.
Ah bah c'est sympathique.
Voilà.
Donc ouais, donc tout ce cheminement pour arriver à beaucoup de patates.
Ouais, grave.
Vous êtes à peu près sur combien de superficie pour faire une tonne de patates?
Ouais, je dirais qu'il y a, on a à peu près 500 mètres carrés, un truc comme ça.
Ah ouais, voilà. Pas mal.
Ouais, ouais.
Et vous êtes combien à peu près à travailler dessus?
Eh ben en fait, je dirais qu'on est, y a un noyau dur de 5-6 personnes qui vraiment bossent pas mal fort, on va dire. Et puis sinon, on est vite une vingtaine quand il s'agit de faire les événements, de récolter et tout ça, quoi. Donc
bien
voilà.
Bien sûr. Et parmi ces étudiants, parce que c'est généralement réservé pour les étudiants, on est d'accord, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir d'autres institutions de Blois?
Ou ouais, carrément. En fait, ouais. À vrai dire, pour l'instant, on est pas mal entre étudiants de l'école du paysage. Parce que ça débute, c'était un peu l'année dernière notre première année effective, entre guillemets, en termes de projet. Mais nous, notre but, c'est d'une part de s'ouvrir à tous les étudiants qui souhaitent se joindre à nous, et même aux habitants de Blois, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est interroger un peu la manière de manger à côté de chez soi, des choses qui sont saines, qui pourrissent pas l'environnement. Et d'autre part, c'est de se poser des questions, comment on apprend ensemble, comment on échange des savoir-faire, etc. Donc ouais, il faut qu'il y ait le maximum de monde qui nous rejoigne, quoi.
Ouais, donc tu as dit que vous aviez quand même une conscience écologique à ne pas pourrir l'environnement. Donc j'imagine que vous faites sans pesticides, peut-être avec des méthodes un peu durables. Je ne sais pas, peut-être par exemple la permaculture ou ce genre de choses.
Là, cette année, ça a été une grosse année d'expérience. En fait, nos patates, on ne les a pas toutes fait pousser de la même manière. On a tenté de les planter dans du BRF. En gros, c'est des copeaux de bois, dans des restes de tombes de gazon, mais en pleine terre ou sous bâche. Et en fait, toutes ces manières-là, c'était... ouais, des expériences. Malgré tout, on a été rattrapé par la nécessité de produire une tonne de pommes de terre. Et pour produire une tonne sans tous faire manger ou en essayant d'avoir un peu de productivité, on a dû trouver des solutions. Et du coup, pour la solution, ça a été de mettre une bâche, en fait. Et on a fait pousser les pommes de terre sous une bâche qui est réutilisable, en fait.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Ouais, intéressant. Et toi, comment t'es tombé dans la patate? Ça se trouve, t'étais déjà dès le début dans l'équipe au moment des Gilets jaunes.
Ouais, voilà, c'est ça. On était tous ensemble au début. Là, on a un petit groupe. Et je me suis retrouvé là-dedans. C'était un pote, Mathéo, qui avait un peu tiré la sonnette d'alarme. Et on avait dit, qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre. Et c'est là que ça a commencé, quoi. Et voilà.
Et au niveau, du coup, de ces rassemblements, quand vous allez quand vous allez travailler au niveau du champ ou que vous faites des événements autour de ces patates-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des règles sanitaires que vous devez appliquer? Comment ça se passe?
Ouais, alors ça a été un peu la partie complexe. On a beaucoup travaillé sur le festival de la patate, du coup, enfin la fête de la patate, qui a eu lieu le 19 septembre. Et on a eu un gros travail en amont à faire avec la police municipale, les services de la ville pour préparer l'événement, faire les sens de circulation, le gel hydroalcoolique, respecter le port du masque et tout. Et c'est vrai que même pendant le confinement, pendant le confinement, en fait, il a fallu planter les patates. Et du coup, il a fallu organiser des rotations parce que les gens confinés ne pouvaient pas se croiser.
Du coup,
voilà.
Ouais, c'est évident. Mais c'était pas un peu dur, genre pendant le confinement, il devait y avoir moins d'étudiants aussi sur Blois, par exemple.
Carrément. Ouais, il y avait plus qu'un petit noyau dur, quoi, un petit groupe. Et du coup, ça a été pas facile. Malgré tout, ça s'est assez bien fait grâce à Louise. Elle a vraiment. Donc Louise, c'est un peu notre bosseuse du groupe entre guillemets. Enfin, elle fait vraiment partie du noyau dur. Et elle a organisé tout ça avec Kirillès aussi. Ils ont fait les plans, tout bien, et ça a permis de planter les patates, quoi.
Et au niveau de vos fournisseurs, vous n'avez pas eu trop de problèmes aussi avec cette période de confinement?
Non, on sait comment on a fait. En fait, on avait été livré en patate avant le confinement, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ça n'avait pas posé trop de problèmes. On avait réussi à faire, même pour la livraison des bâches et tout, ça s'était passé en amont. Donc, on a eu un peu de chance sur ce coup-là, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et maintenant que vous avez une tonne de patates de récoltées, comment vous faites pour entreposer tout ça?
Bah là, les patates, pour ce qu'il en reste, parce qu'on en a distribué beaucoup, elles sont entreposées dans le garage, elles attendent tranquillement dans le noir. Après, en gros, l'idée, c'était quand même de les donner aussitôt. Donc, on a fait, comme vous le disiez, la distribution aux étudiants. Mais en fait, aussi, tous les musiciens qui ont joué, qui ont animé le festival de la patate, la fête de la patate, on les a payés en patates, à base de 10 kilos de patates chacun. On en a aussi vendu un petit peu sur le marché. On a fait des jeux là où les gens pouvaient en gagner aussi sur le marché. Donc en fait, on essaye de distribuer un peu par différents canaux notre école, quoi, pour pas la garder pour nous. C'est pas le but, plutôt pour se faire connaître et puis pour donner aux autres un peu, quoi.
Et vous avez des projets futurs au niveau de l'association ou pas?
Eh ben, on se relance doucement, ouais. Là, il y a une première réunion patate, du coup, comme je disais, tous les jeudis. Donc là, c'était jeudi dernier, c'était au bar Le Royal. Et en fait, on a commencé à mettre en place les projets à venir. Donc les futurs projets, ça va être un événement de mise en place d'engrais verts. En fait, vu qu'on a fait pousser de la patate, on a un peu épuisé les sols. Et du coup, l'idée, c'est de les régénérer en plantant des plantes qui vont fixer l'azote. Donc on va semer ça et on va enlever les bâches qui restent. Donc ça, c'est le prochain chantier. Et puis l'année prochaine, au cours de l'année, on va lancer un autre chantier. Et ça va être plus, là, cette année, faire pousser un peu de patate, mais aussi beaucoup de courges, surtout.
D'accord.
Pas rester sur les mêmes cultures pour pas non plus appauvrir trop le sol.
Donc le but, c'est de produire pour durer.
Voilà, c'est exactement. Ouais, complètement. Il y a vraiment une volonté de durabilité.
Ah bah, c'est bien cool. Et sinon, est-ce que tu avais une fibre un peu agricole? Est-ce que tu aimais bien faire pousser des choses avant de venir dans cette association ou
Ouais. Après, on a tous beaucoup appris grâce à ça, en fait. Mais oui, bien sûr, grâce à l'école du paysage, forcément, on développe un peu ces compétences-là, ces envies-là et tout. Et du coup, ça fait que on a eu l'occasion de faire des expériences dans le jardin, etc. Après, encore une fois, le fait d'avoir pu rencontrer Alexandre Delacrompe, du coup, le maraîcher qui nous a suivis, ça nous a vraiment permis de comprendre plus les complexités du maraîchage, les techniques qui sont affiliées à ça, et comment est-ce qu'on produit durablement, qu'est-ce qu'on met en place. Donc on a vraiment appris pas mal de choses sur le monde agricole, en tout cas sur la partie maraîchère de ce monde-là, quoi.
C'est donc quelque chose qui vous apporte des informations, du positif à votre formation à l'école
Ouais, tout à fait. Et même au-delà, grâce à ce projet, on est rentré dans notre volonté première de rencontrer des gens, des acteurs un peu de l'alimentation, et d'échanger avec eux et d'apprendre avec eux. Et nous, potentiellement, de leur apprendre des choses, en fait. Et la volonté première, c'est le partage de connaissances, encore une fois. Donc,
Bien sûr. Juste pour finir, trois mots pour décrire l'asso.
Voilà, l'asso, c'est pas mal d'énergie, d'ambition, des légumes à faire pousser avec de la rencontre. Voilà, je crois.
Et sinon, si je suis un auditeur de Salut les Jeunes et que je veux aider l'association 41 Patates,
ouais,
comment je peux faire?
C'est possible à fond. Il y a une boîte mail, alors c'est tout attaché, les41patates@outlook.fr. On a aussi une page Facebook, les 41 patates, et un compte Instagram, les 41 patates.
Voilà, donc si maintenant vous savez, si vous voulez les aider ou même y participer, c'est directement là-bas, non?
Grave, ah ouais, absolument.
Et donc, Pierre, on t'avait proposé de choisir la prochaine musique qu'on allait diffuser. Donc, tu nous as dit que nous a proposé de faire passer R2J, le titre Smoke and Mirrors. Peux-tu nous en parler juste en quelques mots?
Ouais, c'est un son que j'aime bien. Je le trouve un peu planant sur les bords et un peu avec une esthétique un peu futuriste et tout. Je trouve ça cool. Voilà.
Allez, on écoute ça tout de suite.
Eh bien, on est reparti sur une petite chronique maintenant avec Gabin, il me semble, sur Berlioz et moi. On est parti, quand tu veux.
aujourd'hui, dans Berlioz et moi, on va parler d'un titre qui m'a touché et qui me tient à cœur. C'est I Wanna Meet Dave Grohl du groupe Waves, qui s'écrit avec deux V. Tout de suite, un extrait. Ce titre est sorti en 2011 sur l'album, sur l'EP Life Sucks, et c'est le dernier enregistrement du groupe avant de signer sous l'album Mum Plus Pop Music. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le groupe va vraiment changer son style de musique et adopter une nouvelle manière d'aborder sa musique. Alors le titre en lui-même, il évoque la complainte d'un adolescent qui a du mal avec sa propre identité. D'ailleurs, il ne veut même pas s'accepter au travers de ses propres erreurs. Il ne le supporte pas. Et il ne rêve que d'une chose, c'est de rencontrer Dave Grohl. Alors, si vous ne connaissez pas Dave Grohl, alors déjà, je vous conseille d'écouter tout ce qu'il a pu faire durant sa carrière. Et pour faire court, c'est le batteur de Nirvana, puis le fondateur des Foo Fighters. En plus de cela, lors de sa carrière, il a par exemple travaillé sur un album avec Bowie, il a monté un projet avec John Paul Jones, ou encore il a joué en live avec Paul McCartney. Mais revenons au titre de Waves et du spleen évoqué par le protagoniste. On comprend au cours du titre que le narrateur ressent un profond malaise, car il dit par exemple qu'il ne veut pas se lever de son lit et qu'il ne veut même pas affronter leur journée. D'après lui, le seul moyen pour qu'il aille mieux, c'est de rencontrer Dave Grohl. Mais en tendant bien l'oreille, pendant le refrain, on entend à la fin de chaque refrain que « I wanna meet Dave Grohl » se transforme en « I wanna be Dave Grohl ». Donc, Dave Grohl n'est plus vu comme une idole, mais bien comme un idéal masculin à atteindre, ou au moins à approcher. Ainsi, le groupe Waves trouve en Dave Grohl quelque chose de parfait que tout ado faisant du rock voudrait atteindre. Ce titre se termine par une répétition entêtante de Never Gonna Stop Me, qui nous signale que le groupe veut tout faire pour se rapprocher de l'idéal que représente l'ancien batteur de Nirvana. Ils ont réussi à atteindre cet idéal, car les années qui ont suivi ce titre de 2011, ils ont réussi à enrichir et diversifier leur musique. Et je vous recommande notamment d'écouter leur album de 2015 qui s'écrit 5 en chiffres romains. Tout de suite, je vais vous laisser avec le titre « I Wanna Meet Dave Grohl » du groupe Waves.
I can't live with my
Bonjour, on se retrouve sur l'émission Salut les jeunes et tout de suite la petite chronique cinéma de Rouliane.
Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ?
Eh bien, personnellement, non. On va directement parler aujourd'hui de The Mandalorian. Vu que la saison 2 est sortie le 30 octobre dernier. Et donc aujourd'hui, pour éviter de vous gâcher l'expérience, on va directement parler de la saison 1. Saison 1 qui a surpris bon nombre de fans de Star Wars, et déjà par son casting qui est déjà plutôt important, avec Pedro Pascal, très connu par exemple pour Game of Thrones, en tant que Mandalorien, Carl Weathers en tant que Grev Karga, donc celui qui lui donne les différentes missions pour retrouver des personnes recherchées, Gina Carano, ancienne catcheuse qui va vraiment donner du fil à retordre au Mandalorian, en tout cas en tant que Cara Dune, et bien évidemment l'incontournable Giancarlo Esposito en Moff Gideon, très connu par exemple pour Breaking Bad ou bien encore actuellement pour Bad Boys. Série sortie sur Disney+, dans une durée de 8 épisodes, un épisode par semaine, juste avant Star Wars 9, pour de bonnes raisons, puisque le scénario avait quelques liens avec ce film et donc devait sortir avant. Saison dirigée par le showrunner Jon Favreau, connu par exemple pour avoir ramené à la vie le monde Marvel et surtout Iron Man, et actuellement le Roi Lion, et puis surtout Dave Filoni, connu pour Star Wars Rebels et Star Wars The Clone Wars, qui a réalisé un bon nombre des épisodes. Cependant, la comparaison est obligatoire avec les films Star Wars, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on n'a pas eu la trilogie qu'on attendait, en tout cas ça a été des films qui ont divisé le public, soit détesté, soit adoré. Personnellement, je les trouve pas horribles. Je trouve qu'il y a de très bons points dans ces films et d'autres qui sont vraiment pas bons. Mais c'est encore un autre sujet. Personnellement, j'adore J.J. Abrams et je suis jamais objectif avec lui. Mais en parlant de la saison, les deux premiers épisodes sont très importants. C'est déjà l'inattendu, on ne sait pas à quoi s'attendre avec cette série après ces deux épisodes 7 et 8, et ça a été une claque déjà, hein. Déjà on va mettre l'ambiance de toute la série à travers un western spaghetti dans le monde de Star Wars qui relate et qui surtout nous fait revenir dans l'Hollywood des années 60-70. Mais ce qui fait beaucoup dans cette série, c'est les personnages, surtout avec Bébé Yoda, qui est une prise de risque quand même, de faire un personnage qui, on ne va pas se le cacher, a but de vendre des jouets, mais qui a été très bien fait et qui est pensé pour le scénario. L'épisode 4, le sanctuaire, avec le remake des 7 mercenaires, des jeux de couleurs assez bons, qui donnent vie à ce AT-ST, le grand robot, tel un T-Rex. On a l'impression de se retrouver sur l'île de Jurassic Park. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration. La saison est en crescendo avec des scénarios d'épisodes moyens, malheureusement, qu'on va considérer comme de remplissage ou en tout cas nécessaires à introduire des personnages ou des informations pour les prochaines saisons, comme dans l'épisode 5 avec le mercenaire. Cependant, l'épisode 6, lui, a des choses en mieux, des partis pris qui le rendent très intéressant. Un Mandalorien furtif, tel certaines scènes de Batman ou de guerriers japonais, avec de grands jeux de lumière. Sans parler de l'approfondissement de sa relation avec le bébé Yoda, et surtout de sa psychologie. Il faut du temps. On va laisser des miettes de pain sur les différents épisodes pour les retrouver tous aux deux derniers épisodes finaux. Donc, on se retrouve également avec un IG-88, fameux chasseur de primes, célèbre pour la trilogie originale, mais ici interprété merveilleusement par Taika Waititi, qui évolue énormément dans cette saison, on va dire, avec une vision du Mandalorien qui déteste les robots à une confiance qui se crée petit à petit. On a vraiment c'est cette qualité de la série, c'est vraiment l'évolution de ces personnages. Il devient vite, en tout cas par rapport au Mandalorien, l'image d'un père de substitution. On a vraiment différents plans de lecture dans cette saison. Et qui sont très intéressants. On ne parle pas juste de Star Wars, juste d'une aventure dans un monde féerique. Non, on a vraiment des sujets sociaux qui sont développés ici, avec ce bébé Yoda qui est laissé, et que le Mandalorien, même si c'est un des meilleurs soldats de la galaxie, eh bien, va développer des sentiments à l'égard de ce bébé, comme les Mandaloriens l'ont accueilli plus tôt. Il y a donc toute une palette de lectures très intéressante, mais moi, tout ce que je vous conseille, c'est d'aller voir cette saison 1 et surtout de commencer cette saison 2 qui est sortie donc le 30 octobre dernier avec un épisode tous les vendredis, en espérant que le retour des sabres donne une ampleur encore plus grande à cette série.
Ah, merci Roulian pour cette petite chronique sur cette bonne série qui est le Mandalorien. Tout de suite, pour terminer, nous allons passer à l'agenda culturel du mois qui va suivre. Donc, c'est l'agenda de novembre. Tout d'abord, jeudi prochain, il y aura les discussions de la chocolaterie qui seront sur le thème de la mobilité en temps de crise. Je vous invite à vous renseigner sur la page Facebook des discussions de la chocolaterie.
Mais également, toute une palette de séries, de cinéma... qui vont être mis en place pour ce mois de novembre. Alors, juste les cinémas qui sont dépendants donc, des films US vont avoir un petit peu de mal, et on pense à eux encore, puisque la majorité des grands films hollywoodiens sont décalés. Mais on va penser aujourd'hui à The Mandalorian saison 2, comme je le disais, le 30 octobre sur Disney+, His Dark Materials saison 2 sur OCS, qui commence à faire son petit bout de chemin. Le 12 novembre, donc, Balloon. Le 11 novembre, c'est un film réalisé par Pema Tseden. Donc, un petit synopsis en réaction à la politique de l'enfant unique imposée par Pékin. Drôle car la protagoniste s'initie en secret à la contraception, pratique tabou dans cette communauté traditionnelle. Donc, très intéressant et surtout d'actualité. Mandibule, le 18 novembre, fait par le Palmacho. Vous devez sûrement connaître. Et on finira par Sacrée Sorcière. Alors, je l'ai pris celui-ci parce que c'est un film de Robert Zemeckis que j'adore, en plus avec Anne Hathaway. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donnera.
Oui, et puis sinon, en manifestation culturelle, donc en art du spectacle, en spectacle vivant sur bois, on a le 3 novembre à 19h30 et à 20h30 au théâtre Nicolas Peskin, de la danse et de la chorégraphie, une chorégraphie de Pierre Pontienne. Également, le 12 et 13 novembre, à la Halle aux Grains, il y aura une mise en scène qui s'appelle « Aux éclats » de Nathalie Bécasse. Sur ce, on vous laisse et
salut les jeunes.
Salut les jeunes. Regarde. Super les guitares. Putain la rythmique. Le pied dis donc. Waouh.